52e congrès de la FPI Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.
Eh bien bonjour à tous, on est toujours en direct de ce 52e congrès de la FPI ici à Mac-en-Barœul dans la banlieue lilloise, un inencableur d'ailleurs de Lille. On est très heureux de vous retrouver et je retrouve une personne d'ailleurs qu'on connaît bien à la fois dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Il est l'un des patrons justement qui empêche peut-être les choses de tourner en rond et qui pose toujours les bonnes questions. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jacques Herman.
Bonjour, merci.
Bonjour Jacques, merci d'être avec nous.
J'allais... Je vous préviens, j'ai la voix cassée, je vais faire un effort.
En tout cas, on va vous entendre, ça va être très bien. J'avais envie de vous demander qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, sans faire de jeu de mots.
Ah, ça, c'est une allusion à mon site LinkedIn sur lequel j'ai fait une vanne sur l'intelligence artificielle.
C'est vachement bien.
Qu'est-ce qu'il y a ? Allez voir mon site LinkedIn.
Voilà. C'est vraiment bien. D'ailleurs, à mon avis, il a très bien fonctionné ce poste, puisque tout le monde m'en parle. Jacques, vous êtes un grand professionnel de l'immobilier, et l'immobilier traverse une période les plus difficiles de son histoire. Alors, on ne va pas égrener les problématiques structurelles et conjoncturelles qui frappent durement cette industrie, mais si je vous demandais aujourd'hui, ici, dans ce 52e congrès, à l'aube d'une élection qui est majeure, puisque dans l'histoire, depuis 58, c'est le 6e décret de dissolution de l'Assemblée nationale, quel sentiment vous avez aujourd'hui ?
Alors, il y a l'élection à laquelle vous faites allusion, et moi, je ne m'exprimerai pas beaucoup dessus, parce que je ne fais pas de politique, à l'FPI, on ne fait pas de politique, les promoteurs privés n'ont pas à faire de la politique. Et puis, il y a un espèce de retournement de cycle. Et tout ça est contemporain. Ça arrive en même temps. On a enchaîné le Covid, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie et maintenant la crise politique. Et donc, en fait, depuis 2019, où j'ai rejoint Altarea, il n'y a jamais eu de période normale. Ça a toujours été un enchaînement de cycles et de contrariétés. Et le paradoxe, c'est que ça fait suite à une bonne dizaine d'années, au contraire, de périodes pendant lesquelles tout était assez fluide. Les taux d'intérêt baissaient, il y avait des incitations à la demande, le Pinel, par exemple, ou d'autres systèmes avant. Et donc, mon observation, c'est qu'on a quand même le chic en France pour faire tout à contre-temps. On a stimulé la demande quand ce n'était pas la peine. Et on cesse de la stimuler quand il y a un problème de demande. On a accumulé les choses déraisonnables, les cahiers des charges des uns et des autres, des prescripteurs non payeurs, la hausse du foncier à laquelle, évidemment, les promoteurs ne sont pas, irresponsables, ils sont très responsables. La hausse des coûts de construction, la hausse des normes. On a accumulé des facteurs de surcoût du logement pour le client à la fin.
Est-ce qu'on l'a vu venir, ça ?
Et tout ça ne se sentait pas, parce qu'on était sous un espèce d'anesthésiant qui était le crédit pas cher et abondant. Et tout d'un coup, là, il y a un an, voilà, mi-2022, on arrête le calmant, on arrête les anesthésiants et on a mal. Voilà. Et tout s'enchaîne. Et maintenant, effectivement... Ces questions politiques majeures pour
nous. Donc, si je vous comprends bien, la crise, entre guillemets, était déjà là,
oui.
Sauf qu'on ne la sentait pas.
Exactement.
On avait plein de problèmes. Et on a été, en fait, anesthésié par de l'argent gratuit qui était finalement, si je vous entends bien, une époque. Ce n'est pas l'époque anormale que l'on vit, c'était l'époque d'avant.
C'est exactement ça. Et l'origine de la crise d'aujourd'hui est à rechercher dans les 10 ans d'euphorie. Les années 2011-2019, où on a tous pris des habitudes, tous et toutes les parties prenantes, les maires, les aménageurs, les promoteurs, les distributeurs.
Vous aussi ?
Les architectes, bien sûr, nous aussi. On a tous pris des habitudes qui ne posaient pas de problème sous l'anesthésiant du crédit quasi gratuit et abondant et qui posent d'énormes problèmes quand on enlève l'anesthésiant, quand on cesse de se shooter. Là, on a mal partout. Mais on a mal parce qu'on a fait des choses pas bien.
Toutes ces créations de valeur étaient finalement des créations de valeur qui n'étaient pas fictives, qui étaient quand même sur un marché haussier, sur lequel la demande était quand même soutenue.
Oui, mais la demande,
il ne s'agit pas uniquement d'emprunter à des taux très, très bas.
Facilitée. En fait, si vous voulez, l'image, c'est ça. On n'achetait pas un appartement en 2017. On le faisait porter par sa banque. On prenait un crédit à 110%, y compris frais de notaire, à 1% de taux d'intérêt. On remboursait quand on voulait et on renégociait les taux si les taux baissaient. Et à la fin, il y avait une plus-value. vous voyez le caractère artificiel.
C'est très clair.
Et donc, c'est cette image que, en fait, on n'achetait pas un appartement, on le faisait porter par sa banque et on faisait une plus-value au passage. Et ben, ce système ne pouvait pas durer.
On a presque l'idée de l'argent facile. Hein,
voilà. Et il a éclaté quand on a arrêté cette espèce d'anesthésiant, oui, de sédatif. Hein, et on en est là. Et tout arrive en même temps. Cette espèce de révélation qu'on a fait fausse route pendant 10 ans arrive en même temps que le post-Covid, que la guerre en Ukraine, que la crise de l'énergie et que la hausse des normes. C'est pareil. Les normes, parlons des normes, 5 minutes. C'est dans les années 2010-2019 qu'on aurait dû faire des efforts pour décarboner la planète. À cause des climato-sceptiques, on a perdu 10 ans. Et c'est 10 ans qu'on ne pourra pas rattraper. On essaye aujourd'hui désespérément de les rattraper, mais complètement à contre-courant de ce qu'il est possible de faire. Et vous savez, moi j'aime bien dire, dans toute chose, il faut trouver un équilibre entre les contraintes environnementales, les contraintes sociales et les contraintes économiques. Et chaque fois qu'on fait une embardée dans un sens ou dans un autre, on rentre en crise sur les autres critères. Les gilets jaunes, c'est ça. Il y a un gars qui s'est levé le matin, qui dit « Retiens-moi ou je fais une taxe carbone sur le diesel ». Et il a créé une crise sociale absolument majeure.
Ouais, absolument.
On a éteint avec 10 milliards d'euros. Voilà, il a fallu 10 milliards d'euros pour éteindre l'incendie. Et tout est un peu comme ça. Et en matière de décarbonation, qui est évidemment un sujet important, majeur, indispensable, inévitable, le temps perdu ne se rattrape pas. On a perdu les 10 ans où tout était facile et finançable. Et on essaye de rattraper le temps perdu à un moment où les clients, parce que c'est ça, il ne faut pas qu'on parle des clients. Les clients n'ont plus les moyens de payer tout ça.
C'est quoi l'avenir des promoteurs aujourd'hui ?
Là,
Est-ce que les promoteurs qui sont sur des classes d'actifs très différentes, on dit « Ok, on va mettre le logement de côté pour l'instant, parce qu'on a un modèle économique qui nous permet de rebondir. Je prends un chiffre, hein, vous le connaissez, ce chiffre 2023, c'est 120 promoteurs qui ont jeté l'éponge. Ils ont été placés en redressement judiciaire. On a toute une industrie. Olivier Salleron de la FFB prévoit 130 000 destructions d'emplois. C'est toute une filière qui est à genoux. J'ai envie de vous poser cette question. Je comprends parfaitement et je pense que vous avez absolument raison en disant que finalement, la période d'anormalité, ce n'est pas celle que nous vivons, c'est celle que nous avons vécue. Comment on fait pour loger les Français ? On a un besoin démographique qui a littéralement explosé. Jamais la demande et la précarité au logement n'a été aussi puissante dans notre pays. On fait comment, Jacques Herman, pour résoudre cette équation ?
C'est le paradoxe parce que, en effet, on a plus que jamais besoin de logement. Pas seulement de logements en propriété, on a aussi besoin de logements en location.
Accès à la location.
Voilà. On a besoin de logements sociaux, on a besoin de logements intermédiaires, on a besoin de logements en propriété, en accession, on a besoin de logements en location. Et il y a une pénurie absolument partout qui est colossale. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Nous, face aux difficultés qu'on rencontre, et faute d'avoir réussi à convaincre les parties prenantes, maires, aménageurs, États, etc., qu'il fallait agir, et changer et adapter ces logiciels, eh bien, on se retrouve à n'avoir pas d'autre solution que pour certains de disparaître et pour d'autres de réduire leur production. Voilà, chez Altarea, par exemple, on produisait 13 000 logements par an et on est en train de se résigner à en produire 8 000 par an. Voilà, donc c'est la réponse à votre question. Nous, on est
un groupe solide, diversifié. Altarea, diversification, doté d'une foncière, avec des trajectoires de revenus très hétérogènes, donc consolidant l'activité et la bonne santé d'Altarea. C'est vrai que quand on voit vos chiffres, on se dit vous êtes plutôt bien débrouillé.
Ouais, enfin, on a quand même passé, oui. C'est peut-être passé inaperçu, mais pas pour nous, 450 millions de pertes et provisions pour solder le cycle précédent, c'est-à-dire solder
bien sûr.
Le coût de tout ce que je viens d'expliquer là. Dans les comptes 2023. Normalement, maintenant, on a fait, comme les anglo-saxons font, une véritable purge dans les comptes 23. Et les mauvaises nouvelles sont derrière nous. On devrait pouvoir reconstruire. Les autres, nos concurrents, n'ont pas les moyens de faire cette opération vérité. Et donc, ce sera plus long pour eux de se débarrasser des problèmes du passé.
Est-ce que ce bouleversement, il est propice au changement ? Est-ce que ce bouleversement, cette frugalité qui vous chatouille, qui chahute sévèrement. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, Jacques Herman, de vous poser les bonnes questions ? Vous êtes un communicant.
C'est pour partir du client.
Vous avez parlé, vous avez évoqué. Alors, vous avez été le seul, d'ailleurs, de le faire de cette façon-là. Moi, j'ai trouvé ça super, sur l'intelligence artificielle. Et vous avez une façon de poser les questions, d'ailleurs, qui est très proche des animateurs éditorialistes. Peut-être une reconversion pour Jacques Herman, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Est-ce que finalement, il n'y a pas là... Première question, c'est l'opportunité d'un changement. Et deux, est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour la promotion immobilière ?
Je crois que oui, parce que comme il y a un besoin énorme de logement, il y a un besoin énorme de promoteurs. C'est juste qu'aujourd'hui,
donc,
les arts ne sont pas alignés. Oui, oui. Mais donc, quelle est la solution ou la direction à suivre pour la chercher et la trouver ? C'est de repartir du client, repartir de ses besoins et de repartir de ses moyens. Aujourd'hui, et on se tue à l'expliquer partout, les clients veulent des deux pièces et des trois pièces parce que la famille française qui faisait 3,2 personnes par famille en 1968, elle fait 2,1 personnes par famille.
C'est très clair.
Il y a eu des changements majeurs dans la sociologie du pays. Voilà, c'est on appelle ça le desserrement familial. Hein, voilà, donc on n'a plus besoin de produire des logements neufs de 4 ou 5 pièces puisqu'il existe de quoi se trouver quand on en a besoin dans l'ancien. Voilà. Et donc, dans le neuf, ce dont on a besoin, ce qui manque, c'est majoritairement, de manière écrasante, des deux pièces et des trois pièces. Et puis, ces deux pièces et ces trois pièces, nous, on pense qu'il faut faire des beaux projets, bien faits, mais simples, et avec une espèce de chasse au gaspillage pour essayer d'en baisser le prix. Voilà, donc, c'est fondamental de produire ce dont les gens ont besoin, ce dont les clients ont besoin, et de le produire à un prix que les gens peuvent payer.
Voilà. Mais est-ce qu'on peut y arriver ? Parce que est-ce que vous maîtrisez le prix du foncier ? Pas toujours. Est-ce que vous maîtrisez les coûts de construction ? Pas toujours. Le coût des matériaux ? Pas toujours. Voilà. On peut agir sur un logement abordable.
Écoutez, sur les coûts du foncier, on essaie de convaincre les vendeurs, les aménageurs d'adapter leurs équations au monde d'aujourd'hui. Donc de prendre une partie à leur charge du problème. Après, on demande au maire de la densification, voilà, de plus de mètres carrés, et ça va à l'encontre d'une tendance. Mais on ne peut pas à la fois ne plus vouloir étaler les villes et ne pas vouloir les densifier.
Il y a même des maires qui font partie de leur PLU,
d'ailleurs. Oui, c'est un énorme problème. C'est les mêmes qui font les règles et qui ne les appliquent pas. Oui, donc, c'est incompréhensible. Bon, ouais. Donc plus de densité. Et puis après, il faut construire des immeubles simples, ce qui ne veut pas dire des immeubles moches. Hein. Ça, c'est, si on est sur, je ne veux pas faire de la technique, mais des immeubles qui plombent bien, hein,
oui.
D'un étage à l'autre, ça plombe bien, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas d'envolée, des formes bizarres, des arrondis, machin comme ça.
Je vois bien tout à fait ce que vous voulez dire.
On économise beaucoup d'argent. Après, sur les plans d'étage, il y a un travail de rationalisation.
C'est quoi ? C'est les modes constructifs ? C'est l'assemblage orsique ?
Ça peut être les modes constructifs aussi, tout à fait. Mais il faut faire attention de ne gaspiller nulle part. Ça vaut pour les bâtiments, ça vaut pour les étages et ça vaut pour les appartements. Très souvent, on avait des trois pièces un peu trop grands parce qu'il y avait un couloir de 3-4 mètres carrés qui servait à rien ou presque.
D'accord.
Et qu'il fallait payer...
En fait, là, vous raisonnez en massification d'un outil industriel.
On est dans le low cost, en fait. On ne garde que ce qui est indispensable.
Ben, je comprends.
Mais on fait du low cost de qualité.
Oui. Voilà, et on arrivera à rendre ça accessible aux Français.
C'est le nom de du programme qu'on a lancé au mois de mai, qui s'appelle Access. C'est un projet, c'est un produit qu'on a lancé et dont le premier projet est situé à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. C'est un gros projet de 640 logements qu'on lance à moment où tout va mal dans le métier. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on a fait des bâtiments qui ont été dessinés par Valo d'Épices. Donc, c'est des beaux bâtiments au bord de la Seine. Donc, c'est un beau site. Voilà. Mais ils sont rectangulaires, ils plombent bien. Voilà. Les étages sont optimisés et les appartements sont optimisés. On arrive à faire un trois pièces dans 58 mètres carrés. Et on a un appartement témoin qu'on a construit au siège pour montrer que ça marche très bien et que c'est un appartement qualitatif. Et du coup, on sort ce produit à un prix raisonnable et on y met une dose d'ingénierie financière, donc du prêt au zéro. On est en TVA 5,5, donc ça fait 14,5% d'économie pour le client. On met toute une série de produits financiers et Altarea paye tous les frais intercalaires entre le moment de la signature et la livraison de l'appartement, ce qui fait que le primo-accédant n'a rien d'autre à payer que son loyer quand il est encore en location et que sa mensualité quand il est chez lui dans l'appartement que j'ai dit. Et après, la résultante de tout ça, c'est qu'on arrive à produire du crédit à 1,5% de taux d'intérêt en moyenne grâce au prêt à taux zéro qu'on utilise intensivement. Et ça permet de faire un exploit. À savoir que la mensualité pour un 3 pièces est égale au loyer d'un 3 pièces à Villeneuve-la-Garenne. Donc on arrive à dire, être propriétaire ou locataire dans le neuf, c'est la même chose. C'est le même coût par mois, c'est la même la
ponction. Mais c'est une zone en rue ?
C'est une zone à 5,5, TVA à 5,5.
Parce que le problème, c'est que... Alors, justement, il y a un candidat à l'élection... le parti à l'élection législative, hein, c'est Jordan Bardella qui l'a annoncé, pour une TVA à 5,5, justement, sur la construction, pour le généraliser, et justement, quelque part, sortir un peu des phénomènes de zonage. C'est pas inintéressant quand on y réfléchit, peu importe l'origine du parti, d'où que ça vienne, justement. Est-ce que la profession a besoin d'un booster fiscal? Souvent, non, depuis 1984, on a le Pierre Mégnori. On a eu ensuite Pierre-André Périssol. On a eu Cellier. On a eu pas mal de grands ministres du logement. Jean-Louis Borloo également, qui a été un grand ministre du logement. Et pour la première fois de notre histoire, à la fin de l'année 2024, il n'y aura plus de dispositif fiscal favorisant l'investissement. Est-ce que vous saluez cette idée ou est-ce que vous dites il faut quand même que nous ayons quelque chose d'attractif pour les Français en matière de construction neuve?
Donc là, vous parlez de l'investissement locatif, c'est-à-dire d'un particulier qui achète un deux pièces et qui le met en location et qui se dit ça me fera un petit pécule pour la retraite.
Et qui a beaucoup aidé la location, puisque ce bien était destiné à la location.
Et nous disons cet investisseur particulier qui met en location est absolument indispensable à la nation. Il faut le réhabiliter, le revaloriser. On a eu tendance à lui cracher dessus. On le brime dans ses relations avec son locataire. Quand il n'est pas payé, il faut 2 ans pour récupérer l'argent. Quand le bail est fini, en fait, le bail n'est pas fini, sauf quand si on y met sa fille ou si on vend l'appartement. Donc, on a en France des dispositifs anti-propriétaires qui sont uniques en Europe, notamment l'idée qu'à la fin d'un bail, ce n'est pas fini, qu'il y a un truc unique en Europe.
Absolument.
Et qui est une véritable brimade sur le propriétaire et qui ne profite pas vraiment au locataire au sens où... Le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'appartements en location et que les Français ont du mal à trouver, à se louer, qu'il y a 20 ou 25 candidats qui déposent un dossier pour le moindre appartement qui est proposé à la location. Donc, en fait, on a fait fausse route complètement. On a déséquilibré les relations propriétaires-locataires. Et puis, sur la fiscalité, on est très nombreux, y compris à l'AFPI ici, à penser que... Il ne nous faut pas un espèce de dispositif qui porte le nom d'un ministre et qui dure 2-3 ans, puis on passe à un autre. Il nous faut définitivement ancrer que le propriétaire loueur est utile à la nation et qu'il faut lui donner un statut. Voilà, un statut voulant dire un régime fiscal.
C'est ça le statut du bailleur
permanent,
privé dont on parle beaucoup.
C'est ça, alors c'est devenu un gros mot, mais on peut l'appeler autrement si on veut. L'idée, c'est de dire, reconnaissons l'utilité fiscale de l'investisseur loueur particulier, donnons-lui un peu comme en fiscalité et comptabilité des entreprises la possibilité d'amortir son bien, voilà, à un certain taux, un taux qui est peut-être plus rapide sur le neuf que sur l'ancien, parce que l'ancien est déjà amorti. Et en économie, ça, c'est simple, pour inciter à l'amortissement, pour inciter à l'investissement, il faut permettre l'amortissement accéléré d'un point de vue fiscal. Voilà. Donc c'est la même chose.
C'est du donnant-donnant.
C'est la même idée, mais il y a un prérequis qui est de reconnaître que c'est utile à la nation. Et moi, j'en suis absolument convaincu. Et je pense que, à force de le dénier, on a créé la crise d'aujourd'hui. C'est l'une des grandes responsabilités. Des décideurs qui se sont succédés, c'est de ne pas avoir réhabilité l'investisseur loueur individuel.
C'est très clair. On va conclure cette interview. J'aimerais envie de vous poser comme ça, c'est pas une dernière question, mais peut-être une sensation. Si je vous demandais de trouver comme ça, spontanément, un adjectif, un mot qui illustrerait le moment que nous vivons, vous diriez quoi? Quel mot vous viendrait à l'esprit, Jacques Herman?
Ah, il ne serait pas très positif, mon mot. C'est la mouise. Ouais, c'est la mouise. Parce que... Non, mais ça fait 2 ans et demi qu'on dit on va dans le mur. Ben là, on y est.
Ouais.
On y est.
Ouais. Et si des mesures sont prises, il faudra combien de temps pour retrouver...
Les Français qui en font les frais parce qu'ils ne trouvent pas à se loger.
Ouais.
Et nous, qui sommes des producteurs de logements, on va réduire notre production. Donc ça montre, je pense, à quel point on a... C'est absurde, voilà.
Bien sûr.
Si vous préférez, si vous n'aimez pas Moïse, je vous dirais Absurdie.
Absurdie. Bienvenue en Absurdie. Voilà. Ça, c'était une chanson. Vous êtes amateur de Michel Sardou. Les sujets, et je voudrais juste compléter justement par cette idée de se dire, je me rappelle d'une interview au Sénat d'Henri Proglio, qui disait finalement en France, on aime beaucoup une chose, on réussit à mettre des choses formidables et on s'empresse immédiatement de détruire l'appareil. À votre avis, il faudra combien de temps pour retrouver, si on a des dispositifs qui nous portent, une certaine santé dans l'industrie immobilière? Certains disent 3, 4 ans.
Oui,
pour retrouver une vitesse de croisière.
La crise est très complexe.
Ouais.
Elle porte sur l'offre.
Bien sûr.
On en a beaucoup parlé.
Bien sûr.
Le consensus pour construire.
Okay.
Les élus.
Et tout. Offre et offre solvable.
Hein, pour vous. Après, on a une crise de la demande. Voilà, il faut produire ce dont les gens ont besoin à un prix qu'ils peuvent se payer. Et puis une crise du coût de construction, des normes, de l'empilement de complexité et de coûts. Qu'on a conduit depuis des années. Et donc, comme c'est très compliqué et que la crise est une polycrise avec plein de facteurs, il faut prendre plein de mesures. Enfin, il n'y a pas une mesure miracle,
oui.
Une espèce de martingale qui va tout résoudre, comme à l'époque du Pinel, du Robien, etc. Non, il faut prendre 20, 25, 30 mesures pour s'attaquer à tous les segments de l'immobilier, le social, l'intermédiaire.
Et le faire simultanément.
La propriété, la location, le neuf, l'ancien, remettre en cause des trucs où on essaie de rattraper le retard et qui marchent, qui vont pas produire d'effets positifs. Donc il faut vraiment une rafale de mesures. Et comme on fait souvent en entreprise, il faut évaluer ces mesures dans 6 mois ou dans 1 an pour voir ce qui marche, ce qui marche pas.
Bien sûr.
Ce qui marche pas, on arrête. Ce qui marche bien, on l'accélère. Et c'est avec une démarche comme ça, très empirique, très itérative, qu'on peut espérer remettre en marche le secteur, et ça prendra 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça.
C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, Jacques Herman. Continuez, surtout, changez rien. Alors, évidemment, l'idée, c'était pas de vous rendre pessimiste, mais de faire une photographie de la situation telle qu'elle est, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et c'était un philosophe qui s'appelle Günther Anders qui disait finalement la désespérance n'est pas de l'auto-apitoiement, mais c'est l'exhortation à mener les actions correctives. Et je pense qu'on est bien dans cet angle-là. Jacques Herman, merci.
Merci
directeur
beaucoup.
Général d'Alterea Group. À suivre, bien sûr, surtout, qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ainsi que toutes les vidéos. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. On est ici au 52e congrès. On sera jusqu'à 18h à couvrir cet événement. N'hésitez pas à y liker, commenter ou réécouter toutes ces émissions en podcast.
À bientôt.
52e congrès de la FPI, Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.